Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver pour revivre avec vous les événements de la semaine écoulée à travers les reportages de la rédaction de RFI et de nos correspondants dans le monde.
Une semaine d'actualité, Chantal Leroux.
Nous irons par exemple au Tchad, sous tension depuis la mort soudaine de son président, Idriss Déby. Nous nous rendrons en Inde, submergés par le coronavirus, tandis que les États-Unis deviennent les rois de la vaccination anti-Covid et que la France voit son déconfinement approcher. Et pour commenter cette actualité, nos invités sont deux confrères qui publient chez Fayard « Le piège africain de Macron, du continent à l'Hexagone », un livre en deux parties, 4 ans de politique africaine de la France passée au crible et une longue interview d'Emmanuel Macron, directe et cash, comme le président français peut parfois l'être. Bonjour Antoine Glaser.
Bonjour.
Fondateur de La Lettre du Continent, vous êtes l'auteur de plusieurs essais sur l'Afrique et pour ce nouveau livre, vous avez fait équipe avec Pascal Hérault. Bonjour.
Bonjour.
Reporter à Jeune Afrique pendant 10 ans, vous êtes aujourd'hui éditorialiste au journal L'Opinion. Pascal Hérault, ma première question est pour vous. Est-ce qu'on peut dire que ce livre, c'est l'histoire d'un jeune président décomplexé qui rêvait d'en finir avec la France-Afrique, mais que la réelle politique a rattrapé?
Oui, c'est un peu ça. Chez Emmanuel Macron, il y avait une volonté de rupture, comme ses prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Mais on n'efface pas d'un coup d'ardoise magique 60 ans de politique africaine ou de France-Afrique, comme on dit. On voit bien qu'il retombe quelque part dans un piège. C'est le titre de notre ouvrage, un piège notamment sur les questions de la promotion de la démocratie, où il est toujours obligé de composer avec des autocrates ou des sécurocrates dans un certain nombre de pays. On voit bien qu'il a voulu aussi essayer de faire évoluer la politique de restitution des biens culturels, mais là encore, il y a des conservatismes, notamment chez les patrons de musées français. On le voit encore, on pourrait citer un troisième exemple, dire que sur le franc CFA, pour la première fois, la France a vraiment fait son forcing pour faire évoluer le lien monétaire qui l'unit avec l'Afrique, et là encore, les principales réticences sont venues du côté africain, notamment de dirigeants d'Afrique de l'Ouest francophone et aussi du Nigeria, qui a bloqué pour le moment l'avènement de cette réforme que tous les activistes attendent de leur vœu.
Antoine Glaser, Nicolas Sarkozy et François Hollande, eux aussi avaient promis en arrivant à l'Élysée de rompre avec la France-Afrique. Il n'en a rien été. En quoi le discours d'Emmanuel Macron devant les étudiants de l'université de Ouagadougou en novembre 2017 pouvait-il laisser espérer un vrai changement dans la relation compliquée entre l'Afrique et l'ancienne puissance coloniale?
Le fait déjà qu'Emmanuel Macron se rende devant les étudiants au Burkina Faso, ça montait déjà une rupture. Son premier voyage n'a pas été à un chef d'État africain. En même temps, comme il l'a dit lui-même, c'est vrai qu'il est toujours, il veut être en rupture. Mais ceci dit, il croyait réellement que la France-Afrique, ça allait passer. Mais on a l'impression qu'il n'a pas tout à fait saisi ce que c'était que la France-Afrique. C'est-à-dire que la France-Afrique, c'est vraiment une période historique, depuis les indépendances jusqu'à la chute du mur de Berlin en 90. C'est comme un gros bateau, c'était un système intégré, politique, avec la France qui avait quand même coopté soit des anciens adjudants-chefs de l'armée française, soit des ministres comme Houphouët-Boigny ou Léopold Sédar Senghor qui avaient été dans des gouvernements français. La France-Afrique, c'était quelque chose de très institutionnel, politique, militaire, financier. Ça n'est pas quelque chose qui s'arrête comme ça du jour au lendemain. Et surtout, ce qui est absolument fascinant quelque part, mais inquiétant, c'est autant au niveau français, tout le monde a vu la chute du mur de Berlin, la réunification de l'Allemagne, les changements en Europe au moment de la guerre froide, la fin de la guerre froide, autant en Afrique, la France a continué comme si elle était chez elle, dans toutes les capitales de ses anciennes colonies, comme si rien n'allait changer. Et comme si la France n'a pas vu l'Afrique se mondialiser totalement. Et Emmanuel Macron arrive en disant « Mais moi, j'ai vu tout ça, vous allez voir, on va passer à une autre histoire. » Comme si, finalement, c'est lui-même qui allait faire le nouveau récit entre la France et l'Afrique, on a l'impression qu'il a totalement sous-estimé, qu'il a un peu pensé qu'il allait tout changer.
Pascal Hérault, est-ce que vous diriez, vous aussi, que Emmanuel Macron a été trop sûr de lui ou est-ce qu'il a été trop naïf ?
Non, je pense ni l'un ni l'autre. Emmanuel Macron est un performeur. Il est persuadé, il est intimement persuadé qu'il peut faire bouger les lignes politiques. Et donc, quand il arrive en 2017, tout auréolé de son succès d'avoir réussi à détruire tout l'établissement politique français, regardé avec beaucoup d'envie par tous ses pairs du monde entier, et notamment en Afrique, où il y a un vent d'espoir qui va naître aussi avec ces régimes qui sont tenus depuis des décennies par des autocrates. Lui, il est persuadé qu'en s'adressant à la jeunesse, en mettant en place un conseil présidentiel pour l'Afrique composé essentiellement de binationaux, il va pouvoir promouvoir un nouveau récit. Il a deux priorités. Sa priorité, c'est changer le regard des Africains sur la France et aussi une considération très politique intérieure qui est de faire évoluer le regard des Français sur l'Afrique. C'est pour ça qu'il va se mettre sur des dossiers emblématiques comme l'éducation, la santé, les diasporas, les nouvelles technologies. Sauf que il doit composer avec une administration et des habitudes qui mènent une politique africaine depuis une quarantaine ou une cinquantaine d'années, et avec des partenaires africains aussi qui sont habitués à ce rapport, à cette relation. Et ça, il va avoir beaucoup de mal à s'en extirper.
Antoine Glaser, Emmanuel Macron reconnaît dans la longue interview qu'il vous a accordée que sa franchise a beaucoup déstabilisé ses homologues africains. Est-ce que c'était la bonne méthode, cette franchise ?
Non, parce que c'est pas vraiment la bonne méthode, ça veut dire... En fait, c'est ça aussi ce paradoxe. Le paradoxe Macron, c'est que à la fois, il explique aux chefs d'État africains, il faut vraiment maintenant se prendre en main, en particulier en ce qui concerne le G5 Sahel, il faut que l'armée africaine soit en première ligne. Et en même temps, en particulier sur la forme, quand on le voit le 21 février récemment au G5 Sahel, quand on le voit, il est à l'Élysée. Il est en visioconférence. Tous ses pairs africains sont, eux, à N'Djamena, autour du président Idriss Déby. Et il leur fait la leçon encore, comme il avait fait au sommet de Pau. À la fois, il leur dit, voilà, la France ne pouvait pas être en première ligne. Et en même temps, il a une carte. Il est comme s'il était le chef d'état-major de l'ensemble des armées du Sahel. Il a une carte, il rentre dans les détails. Là, il y a Mopti, il y a Gao, on va faire ci, on va faire ça, mais il faut y aller. Mais vraiment, au sommet de Pau... Les chefs d'État africains, ils étaient tétanisés.
Parce qu'à l'époque, ils reprochaient aux chefs de l'État du G5 Sahel de laisser leurs opinions publiques condamner la France ou dénoncer la France qu'ils percevaient comme une armée d'occupation, en fait.
C'est vrai que cette présence de l'armée française, et je veux dire qui est importante dans l'ensemble de cette zone sahélo-saharienne, c'est un peu une sorte de cache-misère à une présence française globalement déshérente sur le continent. Et donc, on a toujours l'impression que la France est toujours, elle, en première ligne, c'est elle qui gère tout ça, et d'où les sentiments anti-français en disant, les gens sont, il y a beaucoup de jeunes Africains qui sont persuadés que c'est encore la France qui tire les ficelles dans toutes les capitales africaines, ce qui n'est pas la réalité. D'autant qu'il ne faut pas oublier, et de plus, ça va être comme ça de plus en plus, c'est que ces chefs d'État africains, ces autocrates, ils ont le monde entier dans leur salle d'attente. L'Afrique est totalement mondialisée et la France pèse de moins en moins.
Alors
en
il y a les Russes, les Chinois, les Turcs, et ça irrite beaucoup Emmanuel Macron.
Ah ben ça l'irrite au plus haut point. Il va même jusqu'à dire, dans l'interview qu'il nous a accordé, il va même jusqu'à dire, ouais, finalement les sentiments anti-français sur les réseaux sociaux, c'est pas du tout les jeunes Africains, c'est parce qu'ils sont instrumentalisés par les néocoloniaux que sont la Russie et la Turquie, et c'est eux qui financent tout ça contre la France. Tout le monde sait que c'est pas la réalité, mais c'est l'attitude aussi de la France. Encore une fois, c'est une forme d'anachronisme historique, d'autant plus préjudiciable pour la France qu'elle n'est plus chez elle en Afrique.
Alors, votre livre sort à point nommé en pleine crise tchadienne. Le Tchad, allié indéfectible de la France dans la lutte antiterroriste au Sahel. Le Tchad, dans la tourmente depuis la mort le 19 avril d'Idriss Déby, tué au front où il était allé soutenir ses troupes face à l'avancée des rebelles du FACT, le Front pour le Changement et la Concorde au Tchad. Antoine Glaser, en quoi le cas Idriss Déby est-il l'illustration parfaite du piège africain de Macron ?
Ah bah, je veux dire, c'est même pas une déclaration, c'est l'image. C'est vraiment de voir Emmanuel Macron sur un fauteuil à côté de Mahamat, Déby, le fils d'Idriss Déby, un peu décalé de l'ensemble des autres chefs d'État du G5 Sahel. Et ça, en termes de communication, et même rien à ajouter. On a l'impression de se retrouver dans les années 70-80, quand vous aviez l'ambassadeur de France à côté du général Yadema, et vous aviez les autres ambassadeurs européens qui étaient à l'autre bout de la salle. À Paris, c'était la sidération. Ça veut dire, Idriss Déby, c'est comme si Idriss Déby était immortel. La France est totalement shadow dépendante pour l'opération Barkhane, mais pour sa position dans l'ensemble de cette zone sahélo-saharienne.
Et la colère qui couvait au Tchad depuis la confiscation du pouvoir par l'armée, justement, a éclaté mardi dernier. Des manifestants ont investi la rue pour demander la démission du Conseil militaire de transition et dénoncer le soutien de la France à la junte. Les forces de défense et de sécurité tchadiennes sont intervenues sans ménagement. Bilan 6 morts officiellement, 11 selon la société civile. Le reportage d'Aurélie Bazara Kibangula.
17h dans le quartier Chagua, la tension est retombée après une journée de manifestation. Devant sa concession, cette habitante est encore sous le choc.
On a beaucoup souffert, les gaz là, ils ont mis partout. On n'arrive même pas à sortir, je n'ai même pas été au travail ce matin.
Devant elle, des pneus brûlés fument encore.
Voilà, c'est pour démontrer notre ras-le-bol.
Un peu plus loin, ce voisin explique que la panique a gagné le quartier dès le petit matin.
Dans ma concession même là, il y a un blessé, c'est le gaz lacrymogène, mais il était prêt. Donc on l'a tiré, il est tombé, on l'a pris pour l'amener à l'hôpital.
C'est dans les 7e et 9e arrondissements de la capitale que les manifestations ont été les plus fortes. Elles ont été interdites par les autorités. Ce manifestant affirme qu'en plus des policiers, l'armée est descendue dans la rue tirant à balles réelles.
Ils ont tiré sur nous.
Qu'est-ce que tu as dans la main ?
Les balles réelles, balles lacrymogènes, balles, les cartouches réelles. Avec mes amis, les deux sont blessés. Moi, j'ai pris la balle à la main parce que je courais en faufilant.
Assis devant sa petite boutique, ce commerçant est plutôt agacé de la situation.
On préfère que ce soit pacifique. Ils ont le droit de manifester, mais pas jusqu'à ce point d'aller casser les trucs. C'est pas du tout bon.
À Chagua, tous profitent maintenant de la soirée, malgré l'air encore suffocant des gaz lacrymogènes.
C'est dans ce contexte de violence et de contestation que Mahamat Idriss Déby est sorti de sa réserve mardi après-midi, une semaine jour pour jour après sa nomination à la tête du CMT. Envoyé spécial de RFI à N'Djamena, François Mazet.
Pour sa première prise de parole comme dirigeant du Tchad, Mahamat Idriss Déby a commencé par rendre hommage à son père et à ses camarades militaires tombés au combat. Il a défendu l'armée et son rôle dans la transition. Le CMT serait né de circonstances exceptionnelles.
Face à ces périls qui menacent encore le Tchad, qui est à nos frontières, les forces de défense et de sécurité ont pris leurs responsabilités devant l'histoire et le peuple. Les hauts dignitaires n'ont pas eu d'autre choix que d'emprunter la voie qui s'imposait à tous dans ce contexte exceptionnel.
Il s'est ensuite employé à rassurer. Il a promis de garantir un dialogue inclusif, que le gouvernement serait de réconciliation, que le Conseil national de transition serait représentatif et que des élections démocratiques libres et transparentes seraient organisées dans les meilleurs délais. Il s'est aussi adressé aux partenaires du pays.
Je voudrais également rassurer nos partenaires que le Tchad continuera de tenir son rang et assumer ses responsabilités dans la lutte contre le terrorisme et respectera tous ses engagements internationaux.
Un respect conjugué à une demande de soutien pour réussir la transition face aux immenses défis que traverse le Tchad.
Une promesse de dialogue inclusif qui laisse l'opposition sceptique. Mahamat Ahmad Alabo, secrétaire général du PLD, le Parti pour la Liberté et le Développement, interrogé par Alexandra Branjon.
Le dialogue inclusif, nous l'avons demandé à son père depuis 2016. On ne l'a pas eu. Si aujourd'hui, il a fallu que monsieur le président Déby meure pour que son fils accepte qu'on organise le dialogue inclusif, nous, on ne veut être que d'accord. Mais le dialogue, s'il est inclusif, il faut qu'il soit complètement inclusif. Parce que les militaires qui sont au pouvoir font du yo-yo. Un jour, ils sont pour le dialogue. Le lendemain, ils sont contre. Ou bien un dialogue sélectif. Non, le dialogue, si le dialogue il y a, il doit être ouvert à tout le monde, à tous les belligérants. On ne discute pas avec ses amis, avec ses frères, on discute avec ses adversaires et ses ennemis. Et donc, on doit être prêt à discuter avec tout le monde, sans exception, et qui permet aux Tchadiens de se retrouver tous ensemble et tracer l'avenir de nouveau Tchad.
Pendant ce temps à Paris, Emmanuel Macron recevait à l'Élysée son homologue congolais, Félix Tshisekedi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine. Les deux hommes ont condamné la répression des manifestations et les violences. L'occasion pour le président français de faire une petite mise au point.
J'ai apporté mon soutien à l'intégrité et la stabilité du Tchad, très clairement à N'Djamena. Je suis pour une transition pacifique, démocratique, inclusive. Je ne suis pas pour un plan de succession. Et la France ne sera jamais aux côtés de celles et ceux qui forment ce projet.
Pascal Hérault, est-ce qu'on peut parler de rétro-pédalage d'Emmanuel Macron ?
Oui, je pense que Emmanuel Macron a vu aussi l'émoi suscité par le premier communiqué de l'Élysée sur le respect notamment de l'intégrité territoriale et toutes les manifestations avec des slogans anti-français qui ont été proférés dans les rues de N'Djamena. Donc c'est une mise au point et je pense que aussi la France a vu aussi les dérives sécuritaires du régime dans la répression des opposants qui a fait au moins 6 morts. J'ai l'impression qu'on est un peu comme à la mort du président Iyad Emma, dans un point de bascule où tout le monde essaye de tirer ses cartes sans qu'il y ait un coup à jouer. Alors bien sûr, il y a cette rébellion qui veut en profiter pour prendre le pouvoir avec un projet civilo-militaire, mais il y a aussi toute cette opposition qui ne veut pas être prise entre deux feux, le feu des rebelles et le feu du pouvoir, le feu que le pouvoir peut faire peser sur ces manifestants qui se battent pour la démocratie et qu'ils ne se satisferont pas, en tout cas, de promesses de transition pacifique qui dure 18 mois.
Mais comment vous expliquez-vous qu'Emmanuel Macron se soit rendu le 23 avril aux obsèques d'Idriss Déby ? Pourquoi s'est-il assis à la droite de Mahamat Déby, comme l'expliquait Antoine Glaser tout à l'heure, comme s'il l'adoubait alors que le fils venait de s'auto-proclamer chef de la transition après la mort soudaine de son père ?
Mais le Tchad est un pays pivot pour la France. C'est le pays phare pour tous nos projets de coopération militaire depuis les années 90. C'est une base logistique pour le renseignement. C'est une base opérationnelle pour l'opération Barkhane. C'est un président sur lequel on s'appuyait aussi pour faire de la diplomatie régionale et régler un certain nombre de crises, avec un Idriss Déby qui pouvait aussi, lui, avoir tendance à jouer au pompier pyromane, mais on s'appuyait sur lui. Donc, pour les militaires français et pour tout le lobby militaire français, il n'est pas question de lâcher un pays pivot comme ça, en plus aux confins du Sahel et de l'Afrique du Nord. Si le pays venait à basculer dans une insécurité qui ne soit plus contrôlable, c'est toute la sous-région, le Maghreb et l'Afrique centrale et même toute l'Afrique sahélienne qui pourrait en subir les conséquences.
En tout cas, les images des obsèques sont apparues à beaucoup comme un soutien à une dynastie tchadienne. Pour preuve, ce reportage de nos envoyés spéciaux à N'Djamena, François Mazet et Boris Vichit, ils se sont rendus mercredi dans le 7e arrondissement de la capitale.
À l'ombre d'un arbre sur l'avenue 5/5, nous abordons un groupe de 4 personnes pour parler de la transition. Dès sa deuxième phrase, Job, pasteur dans une église du quartier, s'en prend à la France.
Je suis déçu et en colère par rapport à la politique française parce que cette fois-ci c'est trop flagrant. Ce peuple a besoin de la liberté et on n'attend pas ça de la France. La France n'a pas tenu compte du peuple. La France, c'est ses intérêts, c'est pas le peuple.
Depuis la venue à N'Djamena d'Emmanuel Macron pour les obsèques d'Idriss Déby, le discours anti-français inonde les réseaux sociaux. Drapeaux brûlés, diatribes enregistrées, pancartes dénonciatrices, noms d'oiseaux visant le président français. Il est dans la bouche de beaucoup de jeunes, comme Alifa Garba.
Franchement dit, on est fatigué de la France. C'est à nous de prendre notre destin en main. Et la France vient se mêler dans notre affaire personnelle et on n'arrive même pas à comprendre. On ne sait pas, ce n'est pas une monarchie.
Un attroupement se forme, la colère s'exprime. Diaf est étudiant.
Il ne nous a pas respectés, il nous a craché dessus. Or, nous aimons la France. Aujourd'hui, c'est à cause de lui que nous sommes levés dans la rue. Si les gens sont tombés ici, c'est de sa faute. Il nous a détestés.
Une rhétorique virale et mobilisatrice que n'hésitent pas à utiliser opposants et sociétés civiles dans leurs appels à manifester.
L'actualité africaine de la semaine, c'est aussi le Burkina Faso. 3 journalistes européens, 2 Espagnols et 1 Irlandais enlevés lundi par des hommes armés dans l'est du pays ont été retrouvés mardi, criblés de balles. Antoine Glaser, dans l'interview qu'il vous a accordée, Emmanuel Macron tient des propos très directs sur le président Rochmark Christian Kaboré et sur ses rapports avec l'armée burkinabé.
C'est vrai, c'est un peu surprenant, ça veut dire, il dit carrément, finalement, Roch Kaboré a peur de son armée, il a peur de coup d'état de son armée, et du coup, il va entreprendre
aucune réforme.
L'impression qu'il est un peu déçu, sans doute, que la France a demandé à Roch Kaboré un certain nombre d'actions. Il faut savoir quand même qu'au Burkina Faso, il y a l'opération Sabre des forces spéciales françaises au nord de Ouagas, qui n'est pas rien quand même. Et donc, je veux dire, je pense que c'est là aussi, enfin, c'est à contre-emploi, je veux dire, de faire la leçon comme ça à Roch Kaboré, c'est pas la meilleure façon d'avoir le Burkina Faso, même s'il y a vraiment des problèmes, effectivement, au niveau militaire. Moi, ce qui me fait aussi, je trouve qu'on sous-estime le fait que toute cette région sahélo-saharienne, vous n'avez plus d'Occidentaux. Les djihadistes, quelque part, ils ont déjà gagné. Ils ont fait fuir tout le monde. Il n'y a plus d'Occidentaux. Ça veut dire que toutes les ONG qui avaient une coopération décentralisée, il y a les journalistes pour aller là-bas, souvent, soit vous allez justement avec un chef comme ce chef des parcs naturels, cet Irlandais. Sinon, faut aller avec l'armée française. Sinon, vous ne pouvez pas travailler.
Pascal Hérault, quel jugement porte le président français sur les pourparlers amorcés au Mali et au Burkina avec les groupes djihadistes? Amorcés entre les pouvoirs en place, bien sûr, et les groupes djihadistes.
Alors, officiellement, la France est contre toute discussion, négociation ou médiation en dehors de libération d'otages, notamment avec les groupes djihadistes. Dans la pratique, la stratégie actuelle de l'Élysée, c'est d'éliminer toutes les têtes des chefs djihadistes, notamment Yad Aghali, le Malien, ou Amadou Koufa aussi, pour pouvoir peut-être après permettre de négocier à un niveau intermédiaire avec des sous-groupes locaux pour les faire rentrer dans un processus de discussion avec les pouvoirs publics et pour les insérer dans un jeu qui pourrait être politique ou économique. Mais aucune négociation officiellement avec les leaders de l'État islamique ou d'Al-Qaïda. Ça, c'est une constante. C'est une position qui est défendue aussi par les militaires français. Et c'est la ligne officielle de l'Élysée. Je voudrais juste redire un mot, là. C'est vrai qu'on ne peut pas en vouloir au président Roch Kaboré et aux autorités de transition d'avoir quelque part décompaorisé en partie l'armée. À partir du moment où il arrive au pouvoir et qu'il y avait cette garde, enfin ce régime présidentiel qui était très proche de l'ancien président, il a voulu lui aussi avoir des hommes à sa main, enfin des officiers fidèles, une armée loyaliste. Alors c'est vrai que ça a provoqué une certaine désorganisation ou une moindre efficacité dans les opérations en cours, mais on ne peut pas non plus lui en vouloir d'avoir une insécurité à sa porte, à ses frontières, qui est largement due à l'opération française, enfin l'opération de l'OTAN, mais avec une velléité française très forte qui a été déclenchée en 2011 en Libye et dont on paye encore les conséquences aujourd'hui.
Sept jours dans le monde. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Glaser et Pascal Hérault qui publient chez Fayard Le piège africain de Macron. Je vous propose de revenir à présent sur les faits marquants de la semaine écoulée dans le monde, avec d'abord l'épidémie de coronavirus hors de contrôle en Inde, avec des chiffres affolants, chaque jour 300 à 380 000 cas, plus de 3 000 morts, des patients couchés sur les trottoirs avec leurs bouteilles d'oxygène pour ceux qui ont la chance d'en avoir, des crémations 24 heures sur 24, le reportage à New Delhi de Sébastien Farcy.
Une quinzaine d'ambulances attendent depuis des heures sur le parking du crématorium de Sarai Kalekan, au sud de New Delhi. Dedans, les corps sont emballés dans du plastique hermétique blanc. Vikas Kumar Gupta, l'un des chauffeurs, a de grandes cernes sous les yeux.
Maintenant, nous ne transportons presque plus de malades dans nos ambulances. On nous appelle presque uniquement pour emmener les défunts ici. Et nous travaillons sans arrêt depuis 24 heures d'affilée. J'ai à peine le temps de voir ma famille.
Mukesh Kashyap vient d'arriver dans une de ses camionnettes. Il a l'air effondré et ses yeux sont rouges au-dessus de sa combinaison bleue. Il est venu incinérer sa femme de 38 ans, décédée il y a quelques heures du Covid-19.
On n'a pas trouvé d'oxygène. Je suis allé dans les plus grands hôpitaux privés, Holy Family, Fortis, Apollo, et finalement un petit hôpital m'a fait payer 55 euros pour une heure d'oxygène. Quand ma femme en prenait, elle allait bien, mais après c'est revenu. On essayait de trouver un lit pour elle, mais elle s'est effondrée dans le triporteur. Les docteurs n'ont pas pu la sauver.
Ce crématorium croule sous les demandes. En 2 semaines, le nombre de défunts incinérés ici quotidiennement a été multiplié par 5. Un embouteillage intenable pour les familles. Du coup, la municipalité est en train de tripler les capacités de crémation en construisant des bûchers sur la pelouse à l'extérieur du bâtiment principal.
Et pendant que l'Inde sombre sous les coups de butoir du Covid, les États-Unis, eux, respirent. Depuis mardi, le port du masque n'est plus obligatoire en extérieur pour les personnes vaccinées, sauf dans les stades et dans les concerts. Joe Biden s'est félicité de progrès extraordinaires dans la lutte contre la pandémie. À New York pour RFI, Lubna Anaki.
Devant le Javits Center transformé en centre de vaccination massive, les longues files d'attente d'il y a encore 3 semaines ont disparu.
Quand je suis venu pour mon premier vaccin, c'était plein, ça allait vite, mais il y avait beaucoup plus de monde.
Comme Chris, ils sont plus de 6 millions de New-Yorkais à avoir reçu au moins une dose de vaccin. Et à partir d'aujourd'hui, la vaccination est ouverte à tous, sans exception et sans prise de rendez-vous obligatoire.
C'est comme une machine bien huilée, très paisible, très bien organisée. Je suis très contente et reconnaissante.
Il n'y a pas de chaos, c'est mieux organisé qu'à l'aéroport, je dirais.
Cette vaccination massive était l'une des promesses de Joe Biden. Le président américain avait fixé un objectif, 100 millions de doses administrées durant ses 100 premiers jours à la Maison-Blanche. On est aujourd'hui à plus de 200 millions.
Initialement, je n'attendais pas grand-chose en termes de rapidité de vaccination. Je pensais que les gens de mon âge ne seraient pas vaccinés avant l'été ou l'automne. J'ai été agréablement surprise.
Je pense qu'il a réussi non seulement à tenir sa promesse de vaccination, mais il a aussi apporté un sentiment de calme.
Joe Biden s'est fixé un autre objectif en termes de lutte contre cette pandémie de coronavirus. Il espère un retour à une vie presque normale d'ici le 4 juillet, jour de la fête nationale.
On reste aux États-Unis où jeudi marquait le 100e jour de Joe Biden à la Maison-Blanche. La veille, c'est un président enthousiaste et déterminé qui a prononcé son premier discours de politique générale devant un congrès à l'assistance clairsemée Covid oblige. Joe Biden veut transformer l'Amérique en profondeur. Sa priorité, l'égalité des chances pour tous. Le récit de notre correspondant à San Francisco, Eric DeSalve.
Deux femmes derrière Joe Biden pour son discours au Congrès, Kamala Harris, Nancy Pelosi. Madame la vice-présidente, madame la chef de la Chambre, aucun président n'a jamais prononcé ces mots. Il était temps, dit Joe Biden. Historique également, le vaste plan de relance face au Covid-19 que le président vient vanter au perchoir, du jamais vu depuis le New Deal de Roosevelt, 6 000 milliards de dollars de dépenses publiques pour relancer l'économie, avec déjà 220 millions de doses de vaccins distribuées. Joe Biden promet la renaissance de l'Amérique.
L'Amérique se relève toujours, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, préférant l'espoir plutôt que la peur, la vérité plutôt que les mensonges et la lumière au lieu de l'obscurité. Après 100 jours de plan de sauvetage, l'Amérique est prête à décoller.
Et Joe Biden confirme sa stratégie très à gauche contre les inégalités. Il promet de réduire la pauvreté de moitié, veut une meilleure protection santé pour les plus fragiles, demande aux élus de voter une réforme de la police et plus de contrôle sur les armes. Quant à ses ambitions, ambitieux plans infrastructure et climat, Joe Biden veut les financer en augmentant les impôts, mais pas ceux de la classe moyenne, non. C'est l'imposition des 1% les plus riches et des grandes sociétés qui va augmenter. Il est temps, dit le président américain, qu'eux aussi payent leur part.
Pascal Hérault, Donald Trump traitait Biden de Sleepy Joe, Joe l'endormi. Est-ce que vous vous attendiez à un président américain aussi actif en 100 jours et aussi ambitieux ?
Alors, effectivement, c'était tout un slogan de campagne, notamment en parlant aussi de l'âge avancé de Joe Biden. Joe Biden a voulu prendre le contre-pied. Il est hyperactif. Il y a un nombre de décrets présidentiels qui a été passé là pendant ses premiers 100 jours qui au nombre de 39. C'est 3 fois plus que ce qui n'a jamais été vu. Alors, il promet un New Deal. Il promet des sommes qui sont assez astronomiques et qui font même tourner la tête. Hein, plus de 6 000 milliards de dollars. Alors, il y a 6 000 milliards, une partie pour la réponse à la crise sanitaire, mais aussi 1 800 milliards pour la femme, pour la famille, pour l'enfant, pour l'éducation. Et là, on voit bien que ce sont aussi ces cibles électorales. Plus de 2 000 milliards aussi pour les infrastructures. Donc, c'est aussi ce côté, on va redonner à l'Amérique des grands projets, une dignité que Donald Trump aurait pu lui faire perdre. Alors après, se pose la question, c'est comment on finance tout ça, parce que ça va coûter extrêmement cher avec un pays qui est largement endetté avec plus de 28 000 milliards de dollars d'endettement pour les États-Unis. Alors effectivement, Joe Biden a décidé d'imposer les plus riches et les sociétés aussi. Donc il va faire grimper normalement progressivement l'impôt sur le revenu et également l'impôt sur les sociétés. Mais il va devoir pour ça avoir besoin du soutien du Sénat, et celui-ci est loin d'être acquis parce qu'il y a une majorité toute relative, alors qu'on a un Sénat avec 50 sénateurs démocrates, 50 républicains et la voix de Kamala Harris qui peut faire la différence. Il ne faudra absolument pas avoir de défection dans les rangs démocrates.
Direction le Proche-Orient à présent. En janvier dernier, une organisation israélienne de défense des droits de l'homme, B'Tselem, avait utilisé le mot « apartheid » pour qualifier la politique israélienne vis-à-vis des Palestiniens. Désormais, le même terme « apartheid » figure dans un rapport de l'ONG Human Rights Watch basé à New York. Eric Goldstein de l'ONG Human Rights Watch, interrogé par Nicolas Falaise.
Il y avait une tendance depuis la signature des accords d'Oslo en 93 à minimiser la gravité des violations commises en disant que bientôt il y aurait une paix entre les peuples et ces violations disparaîtraient. Alors on voit que le processus du paix malheureusement ne va nulle part alors que les violations s'installent de plus en plus. Et c'est devenu un système de discrimination qui est construit pour privilégier les Israéliens juifs aux dépens des droits des Palestiniens. Nous avons fait une analyse plutôt juridique, c'est-à-dire que le mot « apartheid », même s'il a ses origines en Afrique du Sud, c'est un crime selon le droit international. Et on a trouvé dans un rapport de plus de 200 pages que les faits remplissent les critères pour ce crime.
Israël a rejeté sans surprise les conclusions de cette enquête en dénonçant un tract de propagande sans lien avec les faits. Pascal Hérault, vous avez envie de réagir ?
Écoutez, c'est vrai que le mot est fort, hein. Le mot d'apartheid est très fort et il renvoie au régime de domination des Blancs pendant des décennies en Afrique du Sud. Donc il est normal qu'Israël, au moins son gouvernement, le dénonce. La réalité, c'est que pour des raisons sécuritaires et une doctrine de zéro mort qu'essaye d'avoir l'État d'Israël, c'est qu'elle a mis la Palestine, la Cisjordanie et Gaza sous cloche. Un verrouillage sécuritaire très étroit des territoires de Cisjordanie, en coopération avec l'autorité palestinienne. Des restrictions sur les entrées des marchandises ou les droits de passage des travailleurs, des exactions effectivement qui sont aussi commises par les colons qui, avec une colonisation qui se poursuit, où on grignote périodiquement des bouts de territoire du côté palestinien. Effectivement, c'est une situation qui pourrait devenir dramatique, parce qu'on a une jeunesse palestinienne qui est à bout, qui n'en peut plus, parce que d'un côté, elle est prise dans ce jeu où elle est encerclée, où elle ne se voit pas d'avenir, et puis elle est surtout en prise avec des dirigeants de l'autorité palestinienne qui leur nie tout droit à la démocratie, comme on l'a vu encore hier avec le président Mahmoud Abbas, qui a décidé une nouvelle fois de reporter les élections législatives et présidentielles qui devaient se tenir jusqu'au début de l'été.
Et une partie de la population justement palestinienne est descendue dans la rue jeudi à Ramallah pour dénoncer la confiscation du pouvoir par la vieille garde palestinienne.
Une semaine d'actualité.
La France, à nouveau frappée par le terrorisme, lundi a eu lieu à Rambouillet une cérémonie d'hommage à Stéphanie Monfermé, cette fonctionnaire de police poignardée 3 jours plus tôt dans le commissariat de la ville par un chauffeur-livreur tunisien sans histoire qui s'était radicalisé depuis quelques mois. Le meurtrier a été abattu par les forces de l'ordre. Un attentat qui a provoqué l'émotion mais aussi parfois la colère des habitants de Rambouillet. Le reportage de Pierre-Olivier.
Une Marseillaise reprise en chœur par une partie de la foule vient clore cette cérémonie d'hommage. Deux raisons principales ont poussé les nombreuses personnes présentes à se réunir.
Alors en soutien évidemment à son mari, ses enfants, la famille et puis le symbole tout simplement.
Bah écoutez, je pense que c'est important pour soutenir un peu la police, la gendarmerie, enfin tous ceux qui nous défendent au quotidien.
Une cérémonie qui permet aussi aux habitants de se recueillir ensemble. Beaucoup sont encore abasourdis.
À Rambouillet, tout le monde est choqué parce qu'à Rambouillet, il ne se passe jamais rien. C'est une ville très tranquille.
J'ai déjà été dans le commissariat et c'était cette personne qui nous recevait. Elle était très, très agréable, très gentille. D'ailleurs, ça m'a touché énormément là, quand j'ai appris ça.
Après le choc et l'émotion, la colère semble aussi gagner une partie de la population.
Je peux vous dire que ce qui s'est passé, je suis dans une colère, vous ne pouvez même pas imaginer. On nous assassine et qui c'est qui fait ça? Il est rentré clandestinement. Ça va être qui le prochain encore? Vous voyez qu'on en a pas marre.
Lors de sa brève allocution, la maire de la ville a rendu hommage à la policière. Rambouillet a perdu une part d'elle-même et la nation, une femme exceptionnelle, a-t-elle déclaré.
5 jours après l'attaque au couteau à Rambouillet, le gouvernement a présenté mercredi un projet de loi destiné à renforcer la lutte antiterroriste. Parmi les mesures proposées, un suivi des condamnés sortis de prison et la surveillance par algorithme afin de détecter de possibles radicalisés. Ce qui promet d'ici le vote définitif du texte fin juillet, de vifs débats au Parlement et une levée de boucliers des défenseurs des libertés publiques. La semaine en France a également été marquée par la polémique autour de la tribune d'une vingtaine de généraux à la retraite, appuyée par une centaine de hauts gradés et 1 millier de militaires. Tribune publiée le 21 avril par l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Le texte dénonçait le délitement qui frappe la patrie, l'islamisme et les hordes de banlieue, avec en prime un avertissement. Si le laxisme continue à se répandre, cela rendra nécessaire l'intervention de nos camarades d'active. Des propos applaudis par Marine Le Pen et dénoncés par la gauche. Mercredi, à la sortie du Conseil des ministres, Jean Castex est à son tour monté au créneau.
Je ne peux que condamner avec la plus grande fermeté cette initiative qui est contraire à tous nos principes républicains. Ces généraux ne représentent qu'eux-mêmes. Ce pourrait donc être une affaire insignifiante. S'il n'y avait pas une récupération politique, je le dis, tout à fait inacceptable. Comment des gens, et Madame Le Pen en particulier, qui aspirent à exercer les responsabilités de l'État, peut-elle cautionner une initiative qui n'exclut pas de se retourner contre l'État républicain ? Chasser le naturel, il revient au galop.
Le Premier ministre au micro de Julien Chavannes. Les militaires signataires de la tribune en cours, la radiation ou des sanctions disciplinaires, a annoncé le chef d'état-major des armées, le général François Lecointre. Pascal Hérault, est-ce qu'il faut s'inquiéter face à cette tribune mise en ligne 60 ans après le putsch des généraux d'Alger hostiles au général de Gaulle?
On peut s'en inquiéter, pas parce qu'elle est peut-être pas complètement représentative de ce qu'est l'armée ou ce que peuvent être les forces de l'ordre, parce que ce sont essentiellement des généraux à la retraite qui l'ont signé. Mais il y a un chiffre qui est bien plus inquiétant. Selon un sondage Harry, 58% des Français ont apporté un soutien à cette tribune. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire certainement qu'il y a actuellement un ras-le-bol, des frustrations, des mécontentements qui sont certainement liés à la période difficile que nous pouvons vivre actuellement. Mais ça traduit aussi les difficultés des entrepreneurs, des petits commerçants, d'un certain nombre de gens qu'on a pu aussi voir dans les rues ces dernières années avec les Gilets jaunes. Alors, c'est aussi un ras-le-bol exprimé par rapport à l'immigration qui est instrumentalisée, bien sûr, par l'extrême droite, par Marine Le Pen à tout bout de champ. En période d'insécurité physique, économique ou sociale, on voit bien actuellement qu'il y a il y a la mythologie du recours à un général qui revient sur le devant de la scène. On l'a connu dans le passé, dans l'histoire française, avec Bonaparte, De Gaulle plus récemment, et peut-être que l'on aura aussi un candidat, un ancien gradé à la présidentielle française avec le général de Villiers.
Et à ce moment-là, est-ce qu'il n'y aurait pas une concurrence directe entre Marine Le Pen et Pierre de Villiers?
On peut penser qu'ils iront surfer ou tenter de séduire un même électorat, notamment de gens qui veulent un retour de l'ordre, qui veulent plus de sécurité pour les Français, aussi bien au niveau de sa gendarmerie, de sa police, mais aussi bien en matière économique et sociale.
Sept anciens membres des Brigades Rouges arrêtés en France vont être remis à l'Italie. Trois autres sont encore recherchés. Cela faisait plusieurs décennies que Rome réclamait aux autorités françaises l'extradition de quelques 200 anciens militants d'extrême gauche condamnés en Italie pour des assassinats ou des enlèvements commis pendant les années de plomb. Alors avec ce coup de filet visant 10 personnes condamnées pour crimes de sang, Emmanuel Macron a donc rompu avec la doctrine Mitterrand. Cette bienveillance a accordé aux membres des Brigades Rouges réfugiés en France. Pourquoi? L'analyse d'Anthony Latier.
Ce qui explique cette volte-face de la France, c'est d'abord l'arrivée de Mario Draghi à la tête de l'Italie. Ses relations avec Emmanuel Macron sont bonnes. Les deux hommes ont parlé de ce dossier il y a une semaine. Selon l'Élysée, le chef de l'État français a été sensible à ce besoin très fort de justice en Italie, alors que la France a été elle aussi confrontée au terrorisme. Cette décision marque une rupture puisque, depuis François Mitterrand, la France abrite ou a abrité sur son sol des ex-activistes italiens comme Cesare Battisti et n'en a que très peu extradé. Pour cette raison, les avocats des Italiens arrêtés ce mercredi parlent de trahison. La France n'a plus de parole, renchérit le chef de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon. Réponse du ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti.
Je n'ai strictement aucun état d'âme. Je suis fier de participer à cette décision qui, je l'espère, permettra à l'Italie, après 40 ans, de tourner une page de son histoire qui est maculée de sang et de larmes.
Emmanuel Macron veut ainsi mettre fin à des années d'atermoiement, voire à une certaine complaisance, dit son entourage. Désormais, ce sujet est clos, assure la présidence française, qui se félicite d'un moment historique dans la relation franco-italienne.
Bientôt la liberté en France. Emmanuel Macron a présenté jeudi, dans une interview à la presse régionale, les quatre étapes du déconfinement. Les restrictions de déplacement seront levées à partir de lundi 3 mai. Et surtout, les commerces, terrasses, de bars et de restaurants, ainsi que les lieux culturels, musées, cinémas, rouvriront à partir du 19 mai, tandis que le couvre-feu sera repoussé de 19h à 21h. Un mot de football avec la défaite du PSG mercredi face à Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus au Parc des Princes par les Anglais 2-1. Le match retour s'annonce plus que difficile. Il faudrait un petit miracle pour que le PSG se qualifie pour la finale. Est-ce que vous y croyez encore, Pascal Hérault?
Écoutez, j'ai regardé le match et je dois dire que cette équipe de Manchester City a dégagé une telle puissance, une telle impression de maîtrise de son jeu, de maîtrise des événements, notamment quand elle a pris ce but alors qu'elle était plutôt dans une phase de domination. Alors, on peut toujours croire à une résurrection du PSG parce que le Paris Saint-Germain ne manque pas de talent, notamment avec Kylian Mbappé ou Neymar, mais ce sera très très difficile, tant l'impression collective de cette équipe de Manchester City est séduisante.
Je reviens à votre livre « Le piège africain » de Macron. On l'a compris, le président français n'a pas réussi à tourner la page de la France-Afrique. En revanche, Antoine Glaser, est-ce que vous mettez à son actif le travail mémoriel qu'il a entamé, du génocide rwandais à la guerre d'Algérie en passant par l'affaire Thomas Sankara ?
Emmanuel Macron, il veut vraiment ne plus être en bilatéral. Lui, ce qu'il aime, c'est le multilatéralisme, c'est-à-dire la mémoire, la culture, dans le sport, dans tous les domaines, pour échapper finalement à ce qu'il appelle évidemment les autocrates de la France-Afrique. Et donc, il essaye d'échapper par ce biais-là, par les dossiers mémoriels, par le multilatéralisme. Il va y avoir une grande réunion sur la conférence de l'Afrique à Paris le 18 mai. Donc, c'est vraiment le multilatéralisme. Et c'est vrai que là-dessus, quand il parle de Paul Kagame, il parle digital, numérique et tout. Ça l'empêche pas de dire que Paul Kagame n'a pas fait la réconciliation chez lui. Ça l'empêche pas de dire que c'est vrai qu'il n'y a pas d'alternance dans ce pays. Donc, je veux dire, il y a une espèce de conscience chez lui. Mais il est très offensif, très vindicatif, et il essaye vraiment d'abraser tout ce qui est bilatéral, les relations entre lui et les chefs d'État en dehors de Paul Kagame. Il dit même à un moment donné cette phrase incroyable, il dit « on va sortir de la France-Afrique en allant dans les pays anglophones ». Et il va même, et vous vous rendez compte, le coup de boomerang, il va confier la francophonie finalement à Louise Mushikiwabo, qui était la ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame, qui rêve sans doute de lui succéder un jour ou l'autre. Vous vous rendez compte, c'est-à-dire, il va finalement, au nom de la réconciliation, faire de la diplo-politique, comme l'avait fait Chirac avant lui avec Abdou Diouf ou Boutros-Boutros-Rali, qui défendait bien les intérêts de la France aux Nations Unies. Donc, c'est l'utilisation de la francophonie pour la diplomatie d'influence française.
Quand le chef de l'État vous dit « la France-Afrique n'est pas une fatalité, elle ne m'obsède pas, ce truc va passer, c'est générationnel », vous êtes d'accord avec lui, Pascal Hérault ?
Oui, je pense que ça finira par passer, mais ça prendra encore un petit peu de temps. Il y a encore un certain nombre de dirigeants au pouvoir qui ont joué un rôle pendant les indépendances et qui sont encore au pouvoir aujourd'hui. Ça prendra du temps. Je pense que la France pourra peut-être s'en dégager si elle a des opérations militaires moins visibles sur le terrain, repasser à un niveau de coopération militaire beaucoup plus discret, du type de ce qui est fait actuellement en Mauritanie, pour pas être en prise avec les critiques. Et puis peut-être donner une dimension beaucoup plus économique et culturelle à sa coopération, à condition, bien sûr, d'y mettre les moyens.
Merci beaucoup Antoine Glaser et Pascal Hérault d'avoir été nos invités. J'invite nos auditeurs à lire Le piège africain de Macron, publié chez Fayard. La semaine prochaine, vous retrouverez à ce micro Pierre-Edouard Deldic. Pierre-Edouard qui vous donne rendez-vous demain pour son magazine Idée à 17h10, heure de Paris. Bon week-end à tous.
Tout à l'heure sur RFI.